15h30, merci d'être avec nous à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. 25 degrés à Québec. Il y a des nuages qui essayent de prendre la place. Il y a des risques d'orage au cours des prochaines heures. Les pourcentages sont pas très élevés. Par contre, si jamais ça tombe dans votre bout, faites-nous signe, 88-971-1021. Puis avant de parler de circulation, Audrey, il y a des auditeurs qui ont été impressionnés par ton compte-rendu des premiers films de Star Wars. Et il y a des auditeurs qui aimeraient ça que tu m'imposes le même exercice.
OK. Ouais. Que je t'impose, que tu me résumes Star Wars.
Un film de vampire que t'aimes, que moi, j'aurais pas le goût d'écouter.
Qu'est-ce que tu fais regarder?
Ben là, c'est sûr qu'il faut que tu... Hey, mon Dieu, OK. Fait que je te trouve carrément des...
Les Twilight?
Mais les Twilight, j'ai pas tant... Je vais peut-être te faire écouter quelques épisodes de
Vampire Diaries.
Hey, les Twilight, là, tu m'as fait plier des genoux. Là, j'ai vraiment eu peur que tu m'embarques là-dedans.
Ah, mais là, tente-moi pas, là.
Parce que c'est mieux reçu que Vampire Diaries.
Ah, ça, c'est pas vrai.
Yeah, tu vois.
Oh non, mais ça, c'est un énorme mensonge. On va faire
à suivre.
Oui, à suivre définitivement.
Dans la circulation, Audrey.
Capitale direction Est. Je t'ai insulté, Véro. J'en viens pas que tu dis ça. Ça m'a. Ouf, ouf.
Oh, les fans de Star Wars
ça sont mal passé. Si vous êtes sur la capitale direction Est en ce moment, entre Henri IV et Robert Bourassa, bon ralentissement à prendre en compte. Direction Ouest, ça se passe entre Beau-Royal et Laurentienne. Des problèmes sur Henri IV Sud à partir de chemin Sainte-Foy. Le ralentissement se fait sentir jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Sinon, ça se passe sur la 20 direction Ouest à la hauteur de Chemin des Îles. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre. C'est le 88-971-1021 texto. Et j'ajoute rapidement, on m'a dit tantôt par texto que les problèmes devant la base militaire dans le coin de Shannon, là, c'est des travaux. Ça fait que ça ralentit beaucoup sur la route de la Bravoure.
La beauté de la radio qu'on a le privilège de faire avec vous autres, c'est qu'on est capable de passer de sujets plus légers à des sujets un peu plus sérieux. Puis ça, ben, c'est un sujet qui est à la fois sérieux et grave, qui prend beaucoup de place dans l'actualité aujourd'hui, étant donné que la coroner Jeanne Kamel a remis aujourd'hui son rapport sur le décès de la fillette de Granby. Tout le monde s'en souvient, survenu en avril 2019. Le procès a eu lieu à l'automne 2021 de la belle-mère de la petite qui est décédée alors qu'elle était âgée de 7 ans. Puis il y a beaucoup de choses dans ce rapport-là. On dit globalement que il y a des choses qui laissaient présager cette tragédie-là. On dit que la fillette de Granby aurait dû être entendue. On dit qu'on est convaincu que personne n'a agi de mauvaise foi dans le système, mais que chacun œuvrait dans son propre silo, oubliant malheureusement l'essentiel. Il y a 12 recommandations, mais en rafale, là, il y a 4 signalements à la DPJ qui n'ont pas été retenus, puis les allégations étaient graves. Abus physique, mauvais traitement psychologique, négligence sur le plan éducatif.
Il y avait des évidences. T'sais, une enfant qui était en malnutrition, dont les vêtements étaient souillés, des parents qui ne voulaient pas donner accès à l'enfant, à des gens qui se sentaient concernés, entre autres du côté du CPE. C'était plusieurs drapeaux qui avaient
l'enfant
été levés.
Avait fait des confidences
exact.
Aussi, carrément, à l'école, au personnel scolaire, concernant le fait que ça n'allait pas.
En 2012 et le décès de la jeune fille, les policiers sont intervenus à 24 reprises à son domicile. Donc, policiers, DPJ, intervenants scolaires.
Du côté du CIUS aussi.
Et malheureusement, ben, on se retrouve avec ce rapport-là. Il y a 12 recommandations. Et pour en parler, puis pour essayer de comprendre aussi, parce qu'il y a eu la commission Laurent, ouais. Il y a quelques années, en 2019.
Qui était liée à tout ça, qui avait fait différentes recommandations.
250 recommandations au total toutes.
Puis là, on tombe avec vraiment l'enquête qui a été faite par le coroner et le rapport de Jeanne Kamel. Fait que, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis ce temps-là? Est-ce que c'est un scénario qui pourrait se reproduire? T'sais, comme société, il faut se regarder dans le miroir. Puis même si vous ne vous sentez pas concerné par ça, là, ça nous concerne toutes. Là.
Nancy Audet est journaliste, autrice, conférencière et cofondatrice de l'organisme Équipe Jeunesse qui vient en aide aux ex-placés de la DPJ. Nancy Audet, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes surprise de tout ce qui est expliqué dans le rapport de Jeanne Kamel aujourd'hui et est-ce que vous pensez que la situation est la même dans l'ensemble du Québec?
Non, pas surprise du tout. Je pense que pour avoir suivi également les procès aux criminels, on avait plusieurs éléments de ce qui s'était passé. Il y avait tellement de drapeaux rouges. On a tous failli à la tâche. Hein? Mm-hmm. Je parle en tant que société.
Mm-hmm.
Cet enfant-là a crié à l'aide à plusieurs reprises. et elle n'a pas été entendue. J'ose à peine imaginer sa détresse, mais aussi sa solitude dans les derniers mois de sa vie. Parce que quand, pour avoir un passé de maltraitance, vous le savez, c'est pas un secret, j'ai écrit un livre là-dessus, quand on tente d'aller chercher de l'aide dans notre petit cœur d'enfant, avec nos mots d'enfant, et qu'on n'est pas entendu, ben il y a une grande solitude qui s'installe, un grand sentiment de rejet. Et j'ose à peine imaginer comment elle s'est sentie. Ah. Ça ajoute à tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a traversé physiquement, psychologiquement. Est-ce que ça a changé? J'aimerais ça vous dire oui, parce que moi, je suis une fille positive dans la vie. Je ne suis pas une fille pessimiste. Malheureusement, quand je regarde tout ce qui se passe sur le terrain, quand je parle aux familles, quand je parle aux jeunes aussi, quand je vois le portrait aussi de la situation, parce que vous savez que cet été, la Direction de la protection de la jeunesse a publié son rapport annuel. Ça a passé un peu sous silence et mm-hmm. j'étais étonnée parce que les chiffres là-dedans, dans le rapport, donnaient froid dans le dos. Là. Plus de 141 000 signalements au Québec la dernière année.
Et mon Dieu.
C'est du jamais vu. Hein. C'est profondément préoccupant. C'est plus de 380 enfants par jour. Imaginez, là, pour vos auditeurs, imaginez à l'extérieur de chez vous 8 gros autobus jaunes, là, et remplissez ces autobus-là d'enfants tous les jours. C'est le nombre de signalements pour maltraitance qu'on a, c'est chez nous, ça. Incroyable. C'est partout au Québec. On a plus de signalements pour maltraitance en ce moment qu'on a de naissance chaque année au Québec. Puis, donc, on a aussi des signaux forts à entendre. Et oui, il faut s'indigner, mais surtout, il faut agir.
Quand on parle d'une hausse de signalement, est-ce qu'on constate aussi une hausse de signalement retenu? Parce que comme société, on en parle plus. Je pense qu'on est plus attentif. Je pense qu'une histoire comme celle de Granby fait qu'on n'essaie pas, on se sent plus concerné quand on voit quelque chose, alors que peut-être qu'à une époque, on avait tendance à détourner le regard, à dire que ça ne nous regarde pas, on ne veut pas se mêler des affaires des autres. Est-ce que c'est une dynamique qui fait qu'on signale plus ou il y a plus de retenue aussi, donc il y a plus de cas?
Ouais, je pense que c'est un mélange des deux. Okay. Je pense qu'il y a quand même plus de cas. On a une grande fragilité. Pourquoi? Ben parce qu'on a tellement sabré dans les services de première ligne pour les enfants justement à risque, pour les familles aussi vulnérables. Et ça crée la situation qu'on a aujourd'hui. Quand on a des familles qui ont des problèmes et qu'on ne leur vient pas en aide, ben la situation se dégrade et c'est là que les enfants vont vivre la maltraitance. Alors que si on avait agi en amont, on était venu aider ces familles-là, ces enfants-là, ben on se retrouverait pas avec un signalement. Ça, c'est une chose. Oui, on est plus vigilant, on signale davantage, puis ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, pour me promener beaucoup un peu partout au Québec, je donne des conférences partout, plusieurs dans les écoles, dans les CPE, et je vois l'incompréhension et l'inquiétude. J'ai plusieurs enseignants puis personnels dans les écoles qui me disent qu'ils signalent parce qu'ils voient des signes clairs de maltraitance et ils ne comprennent pas pourquoi les signalements ne sont pas retenus. Et ça crée beaucoup de détresse aussi puis d'incompréhension chez le personnel scolaire. Donc, et ça a été le cas pour la fillette de Granby. L'école a signalé à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quatre signalements retenus. Pour je vous le rappelle, là, c'était des abus physiques.
Oui.
C'était de la maltraitance grave. C'était un enfant qui était rachitique, qui mangeait dans les poubelles.
Oui.
C'est, je veux dire, qui se sauvait la nuit nue de chez elle. Je veux dire, c'est épouvantable. Donc, bien sûr que ça m'a fait, je veux pas vous mentir, ça m'a fait quelque chose quand j'ai entendu tout le monde était de bonne foi. Comment on peut être de bonne foi?
Choquant d'entendre ça.
Quand on rejette quatre signalements pour maltraitance, un après les autres, quand la police se rend 24 fois dans une famille, dans un contexte de violence conjugale, qu'on sait qu'il va y avoir des conséquences graves pour les enfants. Mais j'ai du mal avec ces mots-là, je vous l'avoue, dans le rapport d'aujourd'hui. Puis on ne parle pas d'imputabilité. Je pense que c'est le mot qui manque dans le rapport. on dit qu'il est complet, mais je trouve quand même j'aurais aimé avoir un passage sur l'imputabilité.
C'est intéressant,
on en parle
ça.
Beaucoup à Québec. On en parle beaucoup à Québec en ce moment avec mm-hmm. le scandale, hein,
oui.
le fiasco SAAQ Click, là. Mais l'imputabilité n'a pas sa place aussi, ne trouve pas sa place à la DPJ.
Est-ce que c'est ce qui doit changer en premier, Nancy? Parce que là, il y a des recommandations qui ont été faites par la coroner. La commission Laurent, c'était 250 points, 250 résolutions, 250 recommandations. L'imputabilité ou la notion d'imputabilité, c'est ça qui doit changer en premier ou c'est autre chose?
Je pense sincèrement que ça part de là. Puis quand les gens, des éducateurs ou des intervenants me disent « Ben Nancy, tu comprends pas les conditions dans lesquelles on travaille, c'est des dossiers tellement complets que je le comprends, mais dans notre société aujourd'hui, tout le monde est imputable de ses décisions. Les policiers travaillent aussi dans des conditions difficiles et ils sont imputables. Hein? Oui. Ils peuvent se retrouver en déontologie.
Très
c'est
bon
la même
point.
Chose pour les médecins, les avocats. Comment ça que les gens qui travaillent avec les enfants les plus vulnérables de notre société, des enfants qui subissent de la maltraitance parfois grave, ne sont pas imputables de leurs décisions? Je ne comprends pas. Et je pense que ça part de là. À partir du moment où ces gens vont être imputables, c'est ce que je dis aux éducateurs et aux intervenants. Si un jour vous êtes imputables, ben on n'aura pas le choix de vous donner de meilleures conditions de travail. On n'aura pas le choix d'améliorer la formation également des jeunes qui arrivent, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en ce moment qui ne sont pas formés, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. On voit une grande fragilité. Donc oui, ça part de là. J'aurais aimé ça, voir ça. Parce qu'on a beaucoup d'enfants à risque encore. Puis en 2025, j'aimerais ça vous dire qu'on peut dormir tranquille, mais non, on ne peut pas dormir tranquille. Puis si vous avez la chance, vous nous écoutez, puis vous avez eu la chance d'avoir une enfance heureuse, d'avoir tout ce dont vous aviez besoin, mais ça vous concerne aussi. Parce que les enfants victimes de violences, c'est nos enfants aussi, c'est notre responsabilité. Puis on doit tous faire notre part. En ce moment, je pense qu'on doit tous faire notre part pour aller aider, pour pas qu'une autre petite fille, comme cette petite fille-là, perdre la vie dans des conditions atroces.
Nancy, on parle de 4 signalements à la DPJ, on parle de confidences troublantes qui ont été faites de la part de l'enfant au personnel scolaire, on parle de 24 reprises des policiers qui sont intervenus à la résidence. On dirait que personne se parle, ni la police, ni le système de santé, ni la DPJ, ni le personnel scolaire.
C'est la job des autres.
C'est un peu ce que je retiens de ce qu'on lit dans les médias depuis ce matin,
que
c'est
tout
la
le monde,
faute de tout le monde.
Oui, puis tout le monde voit des évidences.
Mais comment c'est possible? Il me semble que c'est la base que ces gens-là se parlent ou qu'il y a une personne responsable.
C'est un cas extrême.
Oui, un peu partout qui peut transmettre l'info.
Ça fait partie des recommandations. Hein? Réviser l'entente multisectorielle pour déclencher plus systématiquement une intervention socio-judiciaire dans les cas de maltraitance. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup depuis la commission Laurent. Ça fait des années qu'on a un problème avec ça. Je pense aussi qu'on a tendance à vouloir conserver les dossiers, à vouloir un petit peu la DPJ a quand même le contrôle beaucoup dans les dossiers. J'ai l'impression qu'on veut pas trop laisser entrer des gens de l'extérieur.
Mais c'est
crucial.
Mais c'est ça crucial. Ça fait des années qu'on en parle, vous le dites. Fait que me semble qu'il serait temps qu'on mette ça en marche. Est-ce qu'un rapport comme celui-là, ça change vraiment quelque chose au final? C'est plate, mais j'ai l'impression que peu importe la table dans laquelle on fait des rapports ou des commissions, c'est comme si ça amène jamais rien au final.
Mais c'est pour ça que des fois, je pense qu'on perd... On devient un peu cynique ou on perd espoir. Je refuse personnellement de tomber là-dedans parce que moi, ce que je veux, c'est mettre mon grain de sel. C'est peut-être pas grand-chose, mais mon grain de sel, c'est d'aller sensibiliser les gens, de les inviter à passer à l'action. Parce qu'on doit aider ces enfants-là, ces jeunes-là, puis des familles aussi à briser le cycle de violence. Donc, j'essaie de garder espoir, mais c'est sûr que je vous mentirai pas que j'ai des moments de grande colère, des moments où je dors pas parce que je comprends pas, je suis dans l'incompréhension pour le rapport Laurent, pour l'avoir lu en entier qui fait 500 pages et toutes les recommandations, ça tarde à être mis en place. On nous avait promis un avant et un après Granby. Force est d'admettre que le après, il est pas mieux. Malheureusement, ça avance pas vite, on met pas en place les recommandations. On manque aussi beaucoup de... Il y a beaucoup de résistance C'est ce que j'entends le plus souvent. Beaucoup, beaucoup de résistance à l'intérieur même de ce système. Donc, j'espère qu'on va tous, j'espère tout le temps des renforts, en fait. Et moi, je pense que la solution, elle n'est pas juste à Québec, elle n'est pas juste dans les institutions. Je crois fermement que la solution, elle est parmi nous aussi dans la population. C'est nous qui allons nous impliquer davantage dans des organismes communautaires qui viennent en aide aux familles plus fragilisées. C'est nous qui allons mettre en place des choses pour aider. Puis parfois, c'est juste aider un enfant. Hein. Je le répète souvent, là, mais tu sais, les gens qui nous écoutent, si vous voyez qu'il y a un copain de classe ou une copine de classe qui a plus de difficultés, qui vit des choses à la maison, ouvrez donc votre porte.
D'ailleurs,
ouvrez votre porte à cet enfant-là. Donnez-lui un petit kilo de bonheur, puis un peu de répit aussi, puis qu'elle puisse voir qu'ailleurs, ben il y en a des fois de la bienveillance dans d'autres maisons, ça existe, ça. Parce que si elle ne sait pas, elle ne pourra pas un jour reproduire autre chose que ce qu'elle voit chez elle.
D'ailleurs, les rapports mettent en relief beaucoup de problèmes des institutions, tant celui de la commission que celui de la coroner, mais comme société, je sais que ça fait des années que vous suivez ça. En fait, vous avez vécu vous-même certaines expériences. Est-ce que comme société, on s'est amélioré?
En fait, c'est bizarre parce que je vois les deux pôles. Je vois des enfants qui sont ultra privilégiés, qui grandissent et qui manquent de rien. Ils ont même plus que ce dont ils ont besoin, qui font plein de sport, qui ont du tutorat. Puis je trouve ça extraordinaire. Mais de l'autre côté, je vois des enfants qui n'ont rien, qui n'ont même pas le strict minimum. Tu sais, il y a 25 % des familles québécoises en ce moment, des familles d'enfants de 0 à 5 ans, c'est un nouveau sondage qui dit que ces familles-là, c'est énorme, 25 % des familles de jeunes enfants n'arrivent pas à combler les besoins de base de leur enfant. Besoins de base, là. Nourriture, logement, vêtements, effets scolaires. Attendez, là, on a un problème, là. Il y a vraiment un écart énorme qui est en train de se creuser. Mais ces jeunes-là, ces enfants-là, ils vont faire partie de notre société dans quelques années. Ils sont parmi nous. Puis dans le meilleur des mondes, on veut qu'ils puissent avoir un jour un emploi, qu'ils puissent contribuer, qu'ils puissent puis s'épanouir aussi. Tu sais. Mais en ce moment, la vérité, c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas ce dont ils ont besoin pour arriver à avoir une vie normale. Puis on va tous payer le prix de ça. C'est sûr, en tant que société, on y échappera pas. On le voit déjà, l'itinérance qui explose. Ben, ça touche énormément les enfants de la DPJ. Il y a plus du tiers des enfants qui quittent le système de la DPJ à 18 ans qui se retrouvent à la rue, dans des conditions vraiment difficiles. Donc ça, c'est pas digne de nous, c'est pas digne de la société qu'on est. Nous, on aime les enfants. Pour nous, la protection des enfants vulnérables, c'est une valeur fondamentale. Puis j'espère qu'on va y revenir. Puis je vous dirais même que c'est urgent de revenir à cette valeur-là fondamentale.
Puis tout le monde a sa part à faire là-dedans aussi. Nancy Audet, merci infiniment.
Ça fait plaisir.
Merci, au revoir.
Bonne fin de journée.
Nancy Audet, journaliste, conférencière, cofondatrice de l'organisme Équipe Jeunesse qui vient en aide aux ex-placés de la DPJ. L'imputabilité, je connais pas grand-chose dans tout l'organigramme, puis des fois d'un œil extérieur, tu sais. On se dit, on est une société qui se pète les bretelles, on est progressiste, on est ouvert, les gens parlent de leurs problèmes, les gens consultent, il y a plein de lignes, tu peux appeler. Il y a maintenant, tu sais, il y a même des organismes qui aident maintenant, mettons, des parents qui en ont plein le casque.
Qui ont peur de perdre le contrôle.
Qui ont besoin de décrocher une journée, une fin de semaine. Je veux dire, on a l'impression qu'on est inondé de recours et d'assistance, et pourtant, dans un cas qui n'a rien d'anecdotique, c'est un cas horrible, c'est une aurore, l'enfant martyr moderne.
C'était des évidences qui se multipliaient au fil du temps.
Qu'on n'ait pas réussi à rien faire avec ça, oui, c'est décourageant, puis oui, ça rend cynique, puis de voir les chiffres qui sont toujours là, qu'il y ait autant encore de violence, puis autant d'enfants abusés, ça donne l'impression que comme société, on n'a pas évolué ben. Puis, je suis content d'une chose, parce que je me trouvais hasardeux tantôt, là, quand on a parlé d'un nouvel Véro. J'ai comme fait un parallèle avec ce qui se passe au niveau de sa clique.
Ouais.
parce qu'il y a des phrases qui se ressemblent beaucoup dans nos façons de faire. Travailler en silo et en vase clos.
On n'avait pas eu ces informations-là.
Des gens qui disent c'est la faute des autres. Ouais. Des gens qui auraient pu faire quelque chose puis qui n'ont rien fait. Des gens qui auraient dû poser des questions et qui n'en ont pas posé. Des gens qui n'ont pas fait le bout de chemin qu'ils auraient dû faire pour que quelqu'un, quelque part, soit alerté puis réussisse à faire quelque chose.
Il y a l'expression en anglais, faire le extra mile, t'sais, en faire plus. Mm. C'est même pas ça. Ça aurait été juste de faire leur job. On ne demande pas des efforts surhumains. On demande de se parler, d'agir, puis de réagir plus rapidement. C'est une vie d'enfant.
Trop de chefs, pas assez de soldats, pas assez de gens qui travaillent en équipe avec un réel objectif de porter assistance. Je veux vous lire là-dessus. Peut-être que vous avez un bout de réflexion, vous autres aussi, des histoires de même. Malheureusement, on est plusieurs à en avoir côtoyé de près ou de loin.
Puis celle-là est spectaculaire dans le mauvais sens du terme. Combien il y a d'histoires qui sont peut-être moins visuelles, moins évidentes, qui passent peut-être en dessous du radar? Ouais.
Les camionneurs sont imputables de leurs actes. Ils peuvent perdre un mois de paye ou pire s'ils ne suivent pas les règles. Ouais. On est tous imputables. Nous autres, on a des obligations dans nos contrats. Puis c'est un peu... C'est la charge de n'importe qui a une job à faire. Puis non, la job de la DPJ, c'est pas une job facile. Mais moi, j'ai beaucoup de gens qui connaissent ça de très près, la DPJ, puis qui ont eu affaire à eux autres au fil des années à titre de professionnel, qui me disent « Le meilleur service que tu peux te rendre dans la vie, c'est que la DPJ se mêle pas de ton dossier. Que ton dossier soit grave, urgent ou pas, le meilleur service que tu peux te rendre, c'est que la DPJ ne se mêle pas d'un dossier d'enfant qui a besoin d'aide. » C'est terrible de dire une affaire de même. C'est pas Gravel qui dit ça.
C'est sa ressource.
Oui, c'est pas Gravel qui dit ça. Gravel, il connaît fuck all là-dedans. Mais c'est des gens qui travaillent avec des enfants puis qui font justement le extra mile pour essayer de les aider. Puis souvent, c'est la DPJ qui leur met des bâtons dans les roues.
T'sais. Ceci dit, on dirait que je veux prendre le temps de faire la balance puis de saluer quand même les gens qui sont intervenants à la DPJ parce que je pense qu'il y a une grosse affaire de système là-dedans,
souvent,
plus
eux,
que les travailleurs en soi.
Souvent, eux vont sentir qu'ils sont pas appuyés au-dessus d'eux autres, qui ont les mains liées, qui peuvent pas faire de mouvement.
Tu sais, il y a quelques années, j'avais la chance de faire des petits dossiers à les présenter dans le show du midi quand Yann l'animait. Puis à un moment donné, j'avais parlé avec une femme qui a travaillé pendant à peu près 20 ans pour les services de la DPJ puis auprès des enfants qui avaient besoin. Puis elle, c'est ce qu'elle nous disait. Là, on a les mains liées, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de dire ce qui nous déplaît. Puis maintenant que je suis retirée, il avait fallu que je taise son nom, mais elle m'avait dit à quel point c'est un bordel être pognée dans ce système-là, puis que les gens qui y travaillent, eux-mêmes souvent trouvent que ça fait pas de sens, mais ils n'ont pas de choix.
Je vais aller vous lire un peu. Il est 15h53. Véro?
Félix Auger-Aliassime vient de remporter son match de quart de finale du côté du US Open alors qu'il affrontait la 8e raquette mondiale. Alex de Ménard, ça a été pas mal plus tough sur le 4e set alors qu'on s'est rendu assez loin. Tie-break et point de match, puis voilà, ça a été remporté.
Défaite 6-4 au premier set. Après ça, des victoires de 7-6, 7-5 et 7-6. Exact. Fait quand on dit que ça a été serré, c'est pas mal le reflet de la réalité. Ça vient de se terminer là, dans les dernières secondes. On fait une courte pause, 15h53, c'est Gravel dans le retour à Boulevard 102.1.